I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Alors notre prochain invité, quand il était plus jeune, rêvait d'aventure, comme souvent quand on est étudiant et qu'on ne sait pas forcément ce qu'on va faire de sa vie. Sauf que lui a décidé d'aller au bout de ce rêve. Et ce soir, il va venir nous raconter jusqu'où ça l'a mené avec un très bel accent chantant qui vient d'Avignon. Merci d'accueillir Philippe Mistral.
Bonsoir à tous. Alors désolé pour l'accent, je ne peux pas l'enlever, mais en effet c'est exotique et je vais vous parler d'aventures encore plus exotiques puisqu'elles traitent d'expéditions. Puisque j'en ai fait mon métier, donc expédition, la dernière fois que j'en ai parlé au Pôle emploi, ils pensaient que c'était à la poste en fait, donc ça n'a rien à voir avec les colis, c'est les voyages lointains dans des terres assez reculées. Et la genèse de tout ça, c'est vraiment voilà, un rêve de gosse que je n'ai pas voulu lâcher, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Et ce rêve de gosse, j'ai réussi à le réaliser avec beaucoup de ténacité, de persévérance et de culot parfois. Et aujourd'hui, je travaille dans ce milieu-là qui est un petit peu particulier. Ce n'est pas facile tous les jours, mais en tout cas, ça a des belles contreparties puisque je pars sur le terrain dans des mondes perdus. Et évidemment, quand il se passe des histoires sur ces contrées-là, ça devient de suite tout à fait exceptionnel. Et je vais vous en illustrer deux, trois assez sympathiques. Notamment une fois où, dans l'océan Austral, donc c'est l'océan qui entoure l'Antarctique, dans les fameuses latitudes des 40e rugissant et des 50e hurlant, on naviguait avec un gros bateau, c'est le plus gros navire océanographique de France, il fait 120 mètres de long, c'est un gros colosse, on est 150 à bord, il pèse 10 000 tonnes, il est à la fois porte-hélicoptère, cargo, porte-conteneur, pétrolier. Donc, c'est une belle bête qui est taillée vraiment pour ce genre de navigation-là. Et au large d'une île tout à fait sauvage, où on avait terminé une mission de ravitaillement sur un point isolé, on a heurté un haut fond. Alors un haut fond, c'est une sorte de montagne sous-marine qui ne perce pas la surface, mais par contre qui perce la coque. Et donc vous avez certainement entendu parler du Costa Concordia, l'histoire dramatique au large de l'Italie. Ben, on a failli faire la même chose, nous, mais au large du bout du monde, à des milliers de kilomètres de la moindre terre habitée. Et à ce moment-là, en fait, on a donc tapé ce haut fond-là. On a complètement lacéré la coque sur 70 mètres de long et on a commencé à prendre l'eau. Donc imaginez-vous, si vous êtes à bord du bateau, toute la salle là qui penche à 45 degrés avec un bruit terrifiant comme un métro qui passe dans la salle, le bruit du métal des brèches de métal qui se produisent sur la coque et évidemment l'eau qui rentre, qui inonde le bateau. Alors c'est comme dans Titanic, hein, il y a des compartiments étanches, évidemment il n'y avait pas de personne quand on a bloqué ces compartiments-là, heureusement. Donc ça, c'est important à souligner, il n'y a pas eu une seule victime, donc là j'anticipe un petit peu le final, mais il n'y a pas eu de victime ni même de blessés. Mais par contre, on était réellement en train de couler, donc il fallait absolument limiter l'hémorragie, enfin l'inondation, et surtout évacuer le navire au plus vite. Et donc heureusement qu'on n'était pas trop loin de cette île un petit peu sauvage, où il y avait quand même une base scientifique d'une vingtaine de personnes. Et notre hélico a survécu au gros choc, puisqu'il était bien amarré avec des chaînes dans un hangar et il a pu nous évacuer en rapidité pour avant que le bateau ne sombre et on s'est retrouvé sur cette petite base scientifique de 20 personnes à 150 en train de regarder au loin notre bateau qui flottait plus ou moins bien puisque la tempête était en train d'arriver, il y avait des rafales à 140 km/h, c'est tout à fait normal là-bas et on se demandait qu'est-ce qui allait se passer quoi. Au final le bateau a réussi à tenir le coup. Il a flotté, mais il n'était pas capable de nous ramener. Donc, il a fallu bien qu'on trouve un moyen de regagner la terre ferme. Et on a appelé une sorte de SOS international pour qu'on vienne nous récupérer. Mais dans les contrées où on se situe, donc à des milliers de kilomètres de la moindre terre habitée et dans des conditions inhospitalières de navigation, et on est loin de tout, il faut en plus un gros bateau pour récupérer plus d'une centaine de personnes. Donc ça a été long et on ne savait pas du tout combien de temps ça allait durer. Ça a duré 10 jours en fait. On s'est retrouvé naufragé comme ça à 150 personnes sur une île inhospitalière pendant 10 jours à devoir compter sur la nourriture, sur par exemple la fosse septique qui au bout de 2 jours ne marchait plus du tout. Enfin, tout plein de péripéties qui faisaient que là vous êtes presque 400 dans la salle, mais bon, imaginez que vous restez là pendant ne serait-ce qu'une semaine tous enfermés là-dedans, ça crée des liens, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais au bout de 10 jours, on a réussi à venir nous récupérer. Et ce n'était pas fini. Après, il y avait encore une semaine de navigation pour regagner les côtes d'Afrique du Sud. Donc voilà, c'est le genre d'anecdote qui illustre bien les aventures qui peuvent se produire lors d'une expédition. Alors encore une fois, il n'y a pas eu de victime, c'est le point le plus important. Mais il y a une autre anecdote où il y a eu une victime, par contre, et là, c'était moi. Sur une autre île, d'ailleurs, c'est encore plus paumé que la précédente. On est tellement éloigné de tous les continents qu'on est sur un des points les plus isolés de la planète. Et cette île, elle est française. Elle est minuscule, elle s'appelle Amsterdam. On la trouve quasiment pas sur les cartes, tellement qu'elle est petite. Et j'encadrais un groupe à l'époque où on avait passé la nuit dans une sorte de refuge, un peu comme un refuge de montagne, en fait, au sommet d'une petite falaise. C'était super mignon. Et le petit détail important, c'est qu'on avait mangé des langoustes à foison, parce qu'il y en a à profusion dans cette île-là. Elles sont d'ailleurs bien meilleures que les langoustes tropicales. Et le lendemain matin, on déménage, on récupère tous nos sacs. Moi, j'avais le sac poubelle avec toutes les carcasses de langoustes. Et pour regagner la base où on devait repartir, il fallait traverser une colonie d'otaries. Alors, je ne sais pas si vous voyez les otaries, les lions de mer, c'est à peu près la même chose. C'est un peu ce qu'on voit dans les zoos, sauf que là, ce n'est pas du tout les animaux domestiqués qui jonglent avec les ballons et qui tapent dans les mains. Là, c'est l'otarie à fourrure subantarctique qui est très territoriale, très agressive aussi. Là, c'était la saison de reproduction en plus. C'est des animaux exclusivement marins. Alors, une fois qu'ils sont à terre, ils sont assez stressés. Mais ça fonctionne comme les lions, en fait. Le mâle dominant a un ARM. Et il défend jalousement son troupeau de femelles et les mâles entre eux se battent à mort. C'est assez effrayant, les combats, la violence des combats d'otaries à fourrure subantarctique. Ils ont une pression de mâchoire équivalente à celle d'un ours, donc ils se déchiquettent littéralement. Et nous, il fallait qu'on traverse, en fait. Alors moi, j'avais déjà l'habitude de ce genre d'animaux-là. En plus, j'étais accompagné d'un scientifique qui les connaissait également. Et donc on passe sur le chemin naturellement. Le fait qu'on soit en groupe, en masse, qu'on tape dans les mains, on a des bâtons, on leur fait peur. Donc eux s'éparpillent et c'est ça le problème en fait. C'est quand ils s'éparpillent, ben, ça fout une pagaille monstrueuse dans les harems. Et du coup les mâles s'entretuent. Et donc il y avait un mâle qui n'a pas osé fuir en fait, qui est resté sur ses positions. Et certainement qu'à un moment donné il s'est senti acculé et il a chargé dans mon groupe en fait. Donc naturellement, je me suis interposé avec mon bâton pour essayer de le repousser. Mon collègue est venu m'aider. On a réussi dans un premier temps à l'écarter et surtout j'ai réussi à repousser mon groupe. Et ensuite, dans un deuxième temps, alors que je refermais la marche pour vite sortir de là, il a rattaqué une deuxième fois. Et là, j'ai essayé de l'entraîner au loin pour pas qu'il tape dans le tas. Et j'étais habitué à ce genre de comportement agressif, surtout provoquant. Je me suis dit, il va s'arrêter, quoi. Et moi, je le repoussais avec mon bâton de ski. Donc, il n'y a pas beaucoup de distance entre lui et moi. C'est très rapide, c'est très vif. J'avais le temps de partir en courant et le distancer, mais je n'avais pas le temps de me retourner et de faire le geste. Donc, je reculais. Et à force, dans les cailloux, j'ai trébuché, je suis tombé en arrière. Et là, j'ai ce monstre de 200 kilos qui est venu sur moi pour me bouffer là entre les jambes. Il rentrait à peine entre les jambes, enfin, c'est assez colossal quoi. Et donc inutile de vous dire que j'ai flippé, parce que bon, soit il a levé le service 3 pièces, soit il m'éventrait complètement, ou il arrachait la fémorale et je me vidais dans les 5 secondes au bout du monde. Donc je me suis protégé, j'ai mis la main et là il m'a arraché la main. Alors, c'est bien ma main hein. Mais je savais qu'il allait déchirer de droite à gauche, donc plutôt que de retirer la main, j'ai accompagné le mouvement. Ça a permis de limiter les dégâts. Et dans l'action, je m'en suis pas rendu compte, c'est les autres qui m'ont dit. J'avais le sac poubelle rempli de langoustes, apparemment j'ai tapé dessus avec. J'avais plus que ça en fait. Et peut-être que ça a fait son effet, puisque pour un animal, avoir cette masse assez bizarre qui couvre les yeux, qui sent l'odeur de plastique fort, peut-être que ça fait son effet, ou alors peut-être qu'il m'a simplement niaqué comme un chien qui s'arrête au bout de 2 secondes. Toujours est-il que j'aurais pas pu me défendre autrement parce que voilà, si j'avais mis un autre membre, il aurait arraché. Et... Donc il est reparti au bout de 2 secondes et je me suis réveillé avec. Enfin, je me suis relevé, non, je me suis pas du tout évanoui. Dans ces moments-là, on n'est pas du tout évanoui, on est très, très à vif. Et voilà, j'avais tout qui pendait en fait, les tendons, les nerfs, l'os, les muscles. Alors en plus, je suis pompier depuis 12 ans, j'avais l'habitude de voir ça, mais quand on le voit sur soi, c'est vrai que ça fait bizarre quand même. Anatomiquement, c'est intéressant, mais après, quand la douleur commence à arriver, c'est pas pareil. Et donc du coup, ben là, il a fallu que je regagne la base avec la main ouverte. Et encore une fois, quand on est loin de tout, pour aller à l'hôpital, ben, ça prend 1 semaine. Donc on m'a fait les premiers soins là-bas, ils ont été géniaux. Mais voilà, pour aller à l'hôpital, ça prend encore 1 semaine. Donc c'est assez exceptionnel. Et ce qui est marrant, c'est que quand je raconte l'histoire en raccourci en une seule phrase et que je dis aux gens que je me suis fait attaquer par une otarie à Amsterdam et que je me suis défendu avec sa poubelle rapide d'angouste, les gens se demandent ce que j'ai bien pu fumer à Amsterdam. Mais non, tout est vrai. Et alors, il y a une autre... Enfin, je vais passer dans le positif quand même parce qu'il n'y a pas que des drames. Dans une autre expédition, j'ai eu la chance de participer à une exploration d'une zone encore vierge, encore inconnue, à Madagascar, au fin fond de l'île, dans une zone qui a été découverte il y a très peu de temps par un explorateur, pour lequel je travaille d'ailleurs aujourd'hui. Et cette zone, ça s'appelle le massif du Makai. C'est un immense relief montagneux qui fait 4000 km², donc ça correspond à 40 fois la taille de Paris. Et quand on voit du ciel, on dirait un cerveau géant, parce que ça fait un immense labyrinthe de canyons. À l'infini, c'est incroyable tout ce qu'il y a comme canyon. Donc ça a été exploré il y a quelques années seulement. On est loin de connaître les 3/4, même 90% de tout ce qu'il y a. Donc là, l'idée, c'était d'aller à l'intérieur de ce massif avec des images satellites, parce qu'il n'y a pas de carte évidemment, et de repérer des poches de végétation qui n'avaient pas été explorées. Et voilà, comme je vous dis, ça ressemble à un cerveau. Donc vous avez les sommets des montagnes qui sont arrondies, nues, arides, et dès qu'on descend dans les gouffres, dans les canyons qui sont profonds de plusieurs centaines de mètres, on tombe dans des forêts luxuriantes, inondées, même des fois il faut nager avec des lémuriens, une biodiversité assez hallucinante qui s'est développée en un milieu fermé depuis des millions d'années, sans aucun contact des fois même avec la vallée d'à côté. Donc on a un potentiel de biodiversité incroyable, et on a déjà, là on en est à plus de 100 espèces découvertes là-bas qui n'existent nulle part ailleurs. Donc c'est complètement fou de pouvoir participer à une exploration là, dans ces milieux-là, dans ces véritables mondes perdus, et d'être réellement les premiers êtres humains à poser le pied quelque part en fait. Donc ça, c'était un souvenir assez incroyable que d'avoir pu pénétrer un monde perdu et être la première personne à découvrir ces merveilles de la nature. Alors j'aurai d'autres histoires à vous raconter évidemment, notamment la prochaine, c'est le Groenland cet été. D'ailleurs, on cherche des partenaires si vous êtes intéressés. Et donc voilà, les expéditions, ça se passe comme ça. Mais avant tout, c'était un rêve que j'ai réalisé, comme le précisait Patrick, c'était un rêve d'enfance en fait. Et c'est ça qui est important, c'est que quand on est enfant, on a des rêves complètement fous, complètement démesurés, qui paraissent irréels même. C'est marrant de se dire qu'un rêve peut être irréel. Et moi, par exemple, je rêvais de ces explorateurs des siècles passés qui découvraient des mondes inconnus. Je rêvais d'aller dans l'espace comme les astronautes. Je rêvais de voler comme un oiseau. Donc ces rêves-là, j'aurais très bien pu les mettre dans le tiroir à souvenirs quand je suis devenu plus ou moins adulte et me dire, on va passer à des rêves un peu plus terre-à-terre, un peu plus sérieux. On rentre dans un moule sociétal où on rêve d'avoir une super bagnole ou d'ouvrir une pizzeria, je ne sais pas, et puis on se donne du mal, on fait des sacrifices, on réalise ses rêves, et puis au final on se dit, j'ai la voiture, j'ai réalisé mon rêve. Ça c'est un peu triste, parce que l'enfant qui est en vous, du coup il reste frustré de ses rêves qui sont complètement fous, mais qui, à force de les rêver, peuvent se réaliser, à force de persévérance et de ténacité, on peut réussir à réaliser ça et à partir au bout du monde faire des expéditions. Et c'est ce que je vous souhaite à vous tous. Donc si je pouvais conclure comme un célèbre youtubeur que vous connaissez très bien, certainement, qui termine toujours ses vidéos en disant « n'oubliez pas d'y penser », bien de mon côté, je vous dirais « n'oubliez pas de rêver », en vous remerciant.